Chapitre 14. Comment Panurge fut amoureux d'une haute dame de Paris et du tour qu'il lui fit. Panurge commença à être en réputation en la ville de Paris par cette disputation qu'il obtint contre l'Anglais, et faisait dès lors bien valoir sa braguette, et la fit au-dessus émouchetée de broderies à la tudesque. Et le monde le louait publiquement, et en fut faite une chanson dont les petits-enfants allaient à la moutarde, et étaient bienvenus en toute compagnie de dames et damoiselles, en sorte qu'il devint glorieux, si bien qu'il entreprit de venir au-dessus d'une des grandes dames de la ville. De fait, laissant un tas de longs prologues et protestations que font ordinairement ces dolents contemplatifs amoureux de carême, lui dit un jour « Madame, ce serait un bien fort utile à toute la République, délectable à vous, honnête à votre lignée et à moi nécessaire, que fussiez couverte de ma race, et le croyez, car l'expérience vous le démontrera. » La dame, à cette parole, le recula plus de 100 lieues, disant « Méchant fou, vous appartient-il de me tenir tel propos? Et à qui pensez-vous parler? Allez, ne vous trouvez jamais devant moi, car si n'était pour un petit, je vous ferais couper bras et jambes. » « Or, dit-il, ce me serait tout un d'avoir bras et jambes coupés, en condition que nous fissions, vous et moi, un tronçon de chair lie jouant des mannequins à basse marche. Car, montrant sa longue braguette, voici maître Jehan Jeudi, qui vous sonnerait une anticaille dont vous vous sentiriez jusque à la moelle des os. Car il est galant, et vous sait bien trouver les alibis forains et petits poulains grenés en la ratoire, que après lui il n'y a qu'épousseté. » À quoi répondit la dame. « Allez, méchant, allez. Si vous m'en dites encore un mot, j'appellerai le monde, et vous ferez ici assommer de coups. » « Oh ! Dit-il, vous n'êtes pas si mal que vous dites, non, ou je suis bien trompé à votre physionomie. Car plutôt la terre monterait aux cieux, et les hauts cieux descendraient en l'abîme, et tout ordre de nature serait perverti, qu'en si grande beauté et élégance comme la vôtre, y eût une goutte de fiel ni de malice. L'on dit bien que, à grand-peine, vêt-on jamais femme belle, qui aussi ne fût rebelle. Mais cela est dit de ces beautés vulgaires. Toutefois, la vôtre est tant excellente, tant singulière, tant céleste, que je crois que nature l'a mise en vous comme en paragon pour nous donner à entendre combien elle peut faire, quand elle veut employer toute sa puissance et tout son savoir. Ce n'est que miel, ce n'est que sucre, ce n'est que manne céleste de tout ce qui est en vous. C'était à vous à qui Paris devait abjuger la pomme d'or, non à Vénus, non, ni à Luno, ni à Minerve, car on n'y eut tant de magnificence en Juno, tant de prudence en Minerve, tant d'élégance en Vénus, comme il y a en vous. Oh Dieu, déesse céleste, que heureux sera celui à qui ferait cette grâce de vous accoler, de vous baiser et de frotter son lard avec vous. Par Dieu, ce sera moi, je le vois bien. Car déjà vous me aimez tout plein, je le connais. Donc, pour gagner du temps, faisons. » Et la voulait embrasser, mais elle fit semblant de se mettre à la fenêtre pour appeler les voisins à la force. Ah donc, s'en sortit Panurge bientôt et lui dit en fuyant. « Madame, attendez-moi ici, je les vais quérir moi-même, n'en prenez pas la peine. » Ainsi s'en alla, sans grandement se soucier du refus qu'il avait eu, et n'en fit onc pire cher. Le lendemain, il se trouva à l'église à l'heure qu'elle allait à la messe, et à l'entrée, lui bailla de l'eau bénite, s'inclinant profondément devant elle, et après s'alla agenouiller auprès d'elle familièrement, et lui dit « Madame, sachez que je suis tant amoureux de vous que je n'en peux ni pisser ni fianter, Je ne sais comment l'entendez. S'il m'en advenait quelque mal, qu'en serait-il ? Allez, allez, dit-elle, je ne m'en soucie pas. Laissez-moi ici prier Dieu. Mais, dit-il, équivoqué sur à Beaumont le vicomte. Je ne saurais, dit-elle. C'est, dit-il, à Beaucon le vimonte. Et sur cela, priez Dieu qu'il me doigne ce que votre noble cœur désire, et me donnez ses patenôtres par grâce. Tenez, dit-elle, et ne me tabustez plus. Et ce dit, lui voulait tirer ses patenôtres, qui étaient de sestrin avec grosses manches d'or. Mais Panurge promptement tira un de ses couteaux, et les coupa très bien, et les emporta à la friperie, lui disant « Voulez-vous mon couteau ?»« Non, non, dit-elle. »« Mais, dit-il, à propos, il est bien à votre commandement, corps et bien, tripes et boyaux. » Cependant, la dame n'était pas fort contente de ses patenôtres, car c'était une de ses contenances à l'église. Et pensait « Ce bavard ici est quelque éventé, homme d'étrange pays. Je ne recouvrerai jamais mes patenôtres. Que m'en dira mon mari ? Il s'en courroucera à moi. Mais je lui dirai qu'un larron me les a coupés dedans l'église, ce qu'il croira facilement, voyant encore le bout du ruban à ma ceinture. » Après dîner, Panurge alla voir, portant en sa manche, une grande bourse pleine de jetons, et lui commença à dire « Lequel des deux aime plus l'autre ? Ou vous, moi, ou moi, vous ? » À quoi elle répondit « Quant est de moi, je ne vous hais point, car comme Dieu le commande, j'aime tout le monde. » « Mais à propos, dit-il, n'êtes-vous pas amoureuse de moi ?»« Je vous ai, dit-elle, déjà dit tant de fois que vous ne me tenissiez plus telle parole. » Si vous m'en parlez encore, je vous montrerai que ce n'est pas à moi à qui vous devez ainsi parler de déshonneur. Allez-vous-en, et me rendez mes patenôtres, que mon mari ne me les demande. « Comment ? » dit-il. « Madame, vos patenôtres ? N'en ferai par mon ségréant, mais je vous en veux bien donner d'autres. En aimerez-vous mieux d'or bien émaillé en forme de grosses sphères, ou de beaux lasses d'amour ? Ou bien toute massive comme gros lingots d'or, ou si on voulait de ébène, ou de gros jacinthes taillés, avec les marches de fines turquoises, ou de beaux topazes, marchés de diamants à 28 quarts. Non, non, c'est trop peu. J'en sais un beau chapelet de fine émeraude, marché de ambre gris, et à la boucle, un union persique gros comme une pomme d'orange. Elle ne coûte que 25 000 ducats. Je vous en veux faire un présent, car j'en ai du comptant. » Et ce, disait, faisant sonner ses jetons, comme si ce fussent écus au soleil. « Voulez-vous une pièce de velours violet cramoisi teint en graines ? Une pièce de satin broché ou bien cramoisi ? Voulez-vous chaînée, dorure, templette, bague ? Il ne faut que dire oui. » Jusqu'à 50 000 ducats, ce ne m'est rien, cela. » Par la vertu desquelles paroles, il lui faisait venir l'eau à la bouche. Mais elle lui dit « Non, je vous remercie, je ne veux rien de vous. »« Par Dieu, dit-il, s'il veut bien moi de vous, mais c'est chose qui ne vous coûtera rien, et n'en aurez de rien moins, tenez. » Montrant sa longue braguette, « Voici qui demande logis. » Et après la vouloir à coller. Mais elle commença à s'écrier, toutefois non pas trop haut. Et à donc, Panurge tourna son faux visage et lui dit « Vous ne voulez donc autrement me laisser un peu faire ? Brin pour vous, il ne vous appartient pas tant de bien ni d'honneur, mais par Dieu, je vous ferai chevaucher au chien. » Et se dit, s'en fut le grand pas de peur des coups. Or, notez que le lendemain était la grande fête du Cordieu, à laquelle toutes les femmes se mettent en leur triomphe d'habillement. Et pour ce jour, la dite dame s'était vêtue d'une très belle robe de satin cramoisi et d'une cotte de velours blanc bien précieux. Ce jour de la vigile, Panurge chercha tant d'un côté et d'autre qu'il trouva une chienne qui était en chaleur, laquelle il lia avec sa ceinture et la mena en sa chambre. Et la nourrit très bien ce 10 jours et toute la nuit, et au matin la tua, et en prit ce que savent les géomanciens grégeois, et le mit en pièces le plus menu qu'il put, et les emporta bien cachés, et s'en alla à l'église, où la dame devait aller pour suivre la procession, comme c'est de coutume à la dite fête. Et alors qu'elle entra, Panurge lui donna de l'eau bénite, bien courtoisement, la saluant, et quelque peu de temps après qu'elle dit ses menus suffrages, il s'en va joindre à elle en son banc, et lui bailla un rondeau par écrit, en la forme que s'ensuit. Rondeau. Pour cette fois que, à vous, dame très belle, mon cas disait par trop feute rebelle de me chasser sans espoir de retour, vu que, à vous, oncle ne fit austère tour et dit ni fait en soupçon ni libelle, si tant à vous déplaisait ma querelle, vous pouvez par vous sans ma querelle me dire « Ami, partez d'ici en tour pour cette fois. » Torne vous foi si mon cœur vous décèle, en remontrant, comme le hard l'étincelle, de la beauté que vous'ouvre votre atour, car rien n'y quiert, sinon qu'en votre tour me fassiez de elle à Combrecelle pour cette fois. » Et ainsi qu'elle ouvrait le papier pour voir ce que c'était, Panurge promptement sema la drogue qu'il avait sur elle en divers lieux et mêmement au repli de ses manches et de la robe, puis lui dit « Madame, les pauvres amants ne sont pas toujours à leur aise. Quand est de moi, j'espère que les mâles nuits, les travaux et ennuis auxquels me tient l'amour de vous, me seront en déduction d'autant des peines de purgatoire. À tout le moins, priez Dieu qu'il me doigne mon mal en patience. » Panurge n'eut pas achevé ce mot que tous les chiens qui étaient en l'église ne s'en vinssent à cette dame pour l'odeur des drogues qu'il avait épandues sur elle. Petits et grands, gros et menus, tous y venaient, tirant le membre et la sentant et pissant partout sur elle. Et Panurge les chassa quelque peu et prit congé d'elle, et s'en alla en quelque chapelle pour voir le déduit. Car ces vilains chiens la conchiaient toutes et compissaient tous ses habillements, tant il y eut un grand levrier qui lui pissa sur la tête et lui culottait son collet par derrière, les autres aux manches, les autres à la croppe, et les petits culottaient ses patins. En sorte que toutes les femmes de là autour avaient beaucoup à faire à la sauver. Et Panurge de rire dit à quelqu'un des seigneurs de la ville « Je crois que cette dame-là est en chaleur, ou bien que quelque lévrier l'a couverte fraîchement. » Et quand il vit que tous les chiens grondaient bien alentour d'elle, comme ils font autour d'une chienne chaude, il s'en partit et alla quérir Pantagruel, et par toutes les rues où il trouvait des chiens, il leur baillait un coup de pied, disant « Eh, ne irez-vous point à vos compagnons aux noces ? Devant, devant !» Et arrivé au logis, dit à Pantagruel « Maître, je vous prie, venez voir tous les chiens de cette ville qui sont assemblés à l'entour d'une dame, la plus belle de cette ville, et la veulent joqueter. » À quoi volontiers consentit Pantagruel, et vit le mystère qu'il trouva fort beau et nouveau. Mais le bon fut à la procession, car il se trouva plus de 600 chiens à l'entour d'elle, qui lui faisaient 1000 airs. Et partout où elle passait, les chiens frais venus la suivaient à la trace, pissant par le chemin où ses robes avaient touché. Et tout le monde s'arrêtait à ce spectacle, considérant les contenances de ces chiens qui lui montaient jusqu'au col, et lui gâtèrent tous ses beaux accoutrements, qu'elle ne sut y trouver remède, sinon s'en aller à son hôtel, et chien d'aller après. Et quand elle fut entrée en sa maison et fermée la porte après elle, tous les chiens y accouraient de 2 000 lieues, et compissèrent si bien la porte de sa maison qu'ils y firent un ruisseau de leur urine, où les cannes eussent bien joué.